Et l'invité du grand entretien est le secrétaire général de Force Ouvrière, Léa Salamé, dans 10 minutes. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter pour vos questions. Bonjour Pascal Pavageau.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. C'est la première fois que vous intervenez dans le 7-9, pas la première fois sur l'antenne d'Inter. Nombreuses questions à vous poser sur le type de syndicalisme, les formes de mobilisation que vous souhaitez mener avec Force Ouvrière, sur vos relations également avec les autres syndicats et l'exécutif. Commençons par là justement. L'annonce des plans hôpitaux et des plans et du plan pauvreté aurait été reportée à la rentrée en raison de la possible qualification des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde de football. C'est la ministre de la Santé qui l'a dit hier. Comment avez-vous reçu, Pascal Pavageau, cette modification de calendrier ?
Écoutez, enfin, franchement, ça peut pas être la raison. Enfin, je peux pas croire. Nous ne pouvons pas croire que ça puisse être la raison. Enfin, je veux dire, les pauvres après le mondial. Franchement, ça, enfin, c'est une com catastrophique. Donc, la raison doit être ailleurs. Et j'espère que la raison, elle est pour concerter. Elle est pour dialoguer, elle est pour discuter et elle est pour améliorer. Aujourd'hui, 14% de pauvres dans la cinquième puissance économique du monde. Et où nous ne donnons, nous ne redistribuons que 1% du PIB pour aider ces 14% d'entre nous qui prennent le risque, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui risquent de tomber dans une trappe à pauvreté. Donc j'espère que ce plan pauvreté sera d'abord concerté, ce qu'il n'a pas été pour l'instant, et qu'il sera ambitieux. Et que l'objectif n'est pas au mois de septembre, quelle que soit la victoire ou non des Bleus au Mondial, mais que ce soit une victoire pour la redistribution et la solidarité, et qu'on passe non pas d'un qualificatif de pognon de dingue pour celles et ceux qui sont sous ces 14% de pauvreté, mais au contraire d'une entraide supplémentaire, plus efficiente, pour faire en sorte que ces 14% tombent à zéro. Mmh.
En même temps, vous disiez dans votre portrait de Libération que le 5 juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, même s'il y a une conférence sociale à l'Élysée, vous seriez-vous au concert d'Iron Maiden? Il y a des, donc c'est ce soir, il y a des priorités dans la vie, disiez-vous. Bon, il faut peut-être balayer devant votre porte.
Oui, enfin, je pense qu'on va, on peut comparer beaucoup de choses. Pour l'instant, je n'ai rien sur mon calendrier ce soir, à part le concert d'Iron Maiden, mais je crois qu'on ne va pas comparer, si vous voulez, l'agenda du secrétaire général de Force Ouvrière et d'une éventuelle réunion avec la question d'un plan pauvreté pour aider 14% de notre population.
Comment qualifiez-vous la doctrine de l'exécutif en termes de dialogue social ?
J'espère qu'il va y avoir une inflexion, parce que pour l'instant, depuis un an, c'est un peu « je pense, donc tu suis ». C'est un peu même le fait de ne pas tenir compte, on va dire, des contrepoids, et notamment des organisations syndicales ou même des organisations patronales. C'est de travailler seul, sans concertation. On l'a vu sur la loi Pacte, par exemple, dernièrement. On nous a demandé de négocier à un moment donné sur un autre sujet qui était celui de la formation professionnelle, et à peine la négociation terminée, alors que 7 organisations sur 8 arrive à trouver un accord, le gouvernement finalement piétine la négociation et fait autre chose. Donc on a un peu le sentiment d'un gouvernement qui décide de travailler, et d'un chef de l'État, qui décide de travailler seul en disant finalement je suis le seul garant de l'intérêt général. Mais chacun son rôle. Nous sommes une organisation syndicale, rien qu'une organisation syndicale. Nous ne sommes pas des parlementaires, nous ne sommes pas les garants de l'intérêt général. Par contre, dans notre démocratie sociale, depuis grosso modo au moins 70 ans, mais j'allais dire 120 ans, nous contribuons à cette démocratie sociale en proposant des choses. Moi, j'ai des tonnes de propositions Force Ouvrière à mettre sur la table. J'entendais tout à l'heure sur le nucléaire, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais nous, depuis 2011, ce que le rapport parlementaire est en train de découvrir, nous l'avons dit en partie, notamment sur la sous-traitance, depuis maintenant à peu près 6 ans.
Donc, sur ce point, c'est une catastrophe potentielle, la sous-traitance ou pas ?
La catastrophe, enfin, le nucléaire dans... Enfin, la sous-traitance, excusez-moi, dans le nucléaire, c'est simplement une aberration. Excusez-moi, mais c'est une connerie monumentale. C'est un risque gigantesque. C'est faire prendre des risques, bien évidemment, aux salariés concernés. 80% dans la filière nucléaire de sous-traitance. Moi, je me souviens qu'en 2011, quand on arrive, après 2 ans, parce que c'est grâce à FO, s'il y a une filière nucléaire, un comité national de filière nucléaire qui se met en place, après 2 ans de refus à l'époque du gouvernement, la première chose que nous avons obtenue, c'est un état des lieux. Et on était à 70% de sous-traitants. Ça veut dire que ça a continué d'augmenter. Et là-dessus, le rapport est à juste titre, rappelle que c'est un risque pour l'ensemble des acteurs de la filière, et puis évidemment un risque pour tout le monde.
Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce point-là? Parce que la sous-traitance est quasi généralisée, on l'a bien entendu.
Il faut réinternaliser. Pour garder de la compétence durable sur quelque chose qui, franchement, nécessite de la qualification et une ultra-compétence en matière de sécurité. Deuxièmement, il faut réfléchir. Il y a deux possibilités. Nous, on n'était pas totalement défavorables à dire qu'on pourrait réfléchir à une convention collective du nucléaire. Parce que si vous êtes, par exemple, sous-traitant en matière de nettoyage ou de sécurité, vous avez votre convention collective du nettoyage ou de la sécurité. Sauf que là, vous exercez dans un site qui est quand même pas neutre, qui s'appelle une centrale nucléaire. Donc, vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas qualifié, du fait de votre convention collective, à travailler sur un site aussi particulier. Donc, il faut à tout le moins que l'ensemble des conventions collectives qui aujourd'hui interviennent sur des centrales nucléaires soient au même niveau de formation et de qualification que celles et ceux qui sont de la filière nucléaire strictement, en l'occurrence seulement 20%.
Ça, vous allez le porter?
Mais on le porte depuis 6 ans.
Et de avec temps quelle temps, il réponse suffit. Donc
bah, non. Rien. Que dalle, comme d'habitude, sauf visiblement, on était à 70% de sous-traitance, grosso modo, en 2010, on en est à 80%. Donc non seulement on ne nous écoute pas, mais ça s'aggrave. C'est une aberration. Nous, on est favorable au mix énergétique et on est favorable à l'énergie nucléaire, y compris sur des logiques décarbonées. Donc le sujet n'est pas d'être anti-nucléaire ou d'être pro-nucléaire, c'est même pas notre sujet. Le sujet, il est pour nous, organisation syndicale, la protection de celles et ceux qui travaillent dans cette filière et objectivement, de ce point de vue-là, la sous-traitance est une aberration, est une mise en danger pour celles et ceux qui travaillent et un risque, du coup, pour l'ensemble de la population.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, Pascal Pavageau, les réformes sont menées au pas de charge. Elles avancent, qu'importe les manifestations ou les protestations, qu'importe aussi les grèves. La SNCF, elle a été très longue, cette grève, et elle continue. Est-ce que les outils classiques des syndicats sont obsolètes ou au minimum émoussé dans ce contexte-là, dans ce rapport de force-là, avec cet exécutif-là?
Le premier rapport de force d'une organisation syndicale, c'est la négociation. Le problème, c'est que pour négocier, il faut avoir une table et quelqu'un en face. Sur la SNCF, nous avons demandé au gouvernement la négociation de l'extension de leur statut dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Nous avons une réponse idéologique de dire « on ne négociera pas ». Résultat des courses, on a cassé par la loi, de façon idéologique, le statut. Et maintenant, le patronat de la branche ferroviaire refuse de négocier la convention collective. Donc nous avons 127 000 personnes qui sont à poil, dont on vient de casser le cadre collectif de façon idéologique. Donc, ils continuent à se mobiliser.
Et vous les
soutenez? Ils se mobilisent. Moi, je mobilise mes syndicats et mes fédérations. Je les soutiens. Enfin, c'est quand même la moindre des choses et c'est normal. Et je les comprends. Et je comprends cette mobilisation parce que maintenant, c'est le seul moyen qui leur reste pour essayer encore de peser, pour ouvrir une négociation, pour obtenir autre chose que des queues de cerises alors qu'on vient de détruire leur statut dans le cadre d'une convention collective que pour l'instant le patronat refuse de négocier. Enfin, il ne leur reste plus que ça. Alors, on peut se réjouir de dire que la manifestation, la grève ne fonctionne pas ici ou là.
On peut le constater. Hein.
Très bien.
On peut le constater sans s'en réjouir.
Mais certains s'en réjouissent.
Oui, très bien,
certains s'en réjouissent. Moi, je m'en réjouis pas. Nous nous en réjouissons pas. Pas parce qu'on comptabilise le nombre de personnes qui usent leur godasse à faire des manifestations ou perdent des journées de salaire à faire de la grève. Parce que quand je vois que pour obtenir 30 postes dans un hôpital, simplement pour faire son boulot, il faut en arriver à faire 15 jours de grève de la faim ou à être depuis 4 jours sur un toit de l'hôpital en menaçant je ne sais quoi, de sauter. Cette radicalisation, cette radicalité de l'action qui peut se traduire à bien des égards et demain y compris à la SNCF, y compris dans l'énergie, y compris autour du Tour de France comme je l'entends ici ou là, parce qu'on entend beaucoup de choses.
Quoi par
c'est
exemple
je sais pas, bloquer une étape ou autre, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que cette radicalité, c'est une réponse à la radicalité d'en face, c'est-à-dire au fait que idéologiquement on casse les droits collectifs, on casse les cadres collectifs, on individualise et on refuse de négocier. On refuse de discuter. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on commence à entendre? Vos modes d'action traditionnels, type faire la grève, type manifester,
se
mobiliser,
ça ne marche plus.
Ça ne suffit plus.
Donc, il faut...
Donc la prochaine fois, il faut quelque chose de beaucoup plus percutant. Et moi, j'ai pas envie que la prochaine fois, ce soit autre chose qu'une chemise arrachée. Une chemise arrachée, c'est déjà trop violent. De ce point de vue-là, nous, on est des organisations syndicales démocratiques, responsables. On est des organisations syndicales pacifiques et républicaines. On n'est pas là pour initier de la violence ou initier de l'insurrection. Le problème, c'est que localement, moi, je m'inquiète quand il n'y a plus personne dans la rue, y compris des militants syndicaux, et quand y compris des militants syndicaux se disent « faire grève ne suffira pas ». C'est le « suffira pas » qui m'inquiète.
Pascal Pavageot, le MEDEF a un nouveau président, Geoffroy Roux de Bézieux.
Bon, voilà. On est content, on a retrouvé un président au MEDEF. Ça faisait un an qu'il n'y a plus personne.
Voilà, ça c'est déjà une première chose. Vous attendez quoi à la fois de lui et de ce partenaire social, c'en est un?
Écoutez, son prédécesseur avait un pins, un million d'emplois.
Vous avez un pins FO, là?
Oui, mais moi, FO, je tiens parole. C'est-à-dire qu'au moins, je représente FO. Lui, visiblement, le 1 million d'emplois, on ne l'a jamais vu. Eh bien, écoutez, qu'il ne porte pas un pins, mais par exemple un t-shirt avec écrit négociation collective et paritarisme. Moi, j'attends qu'il revienne à la table de négociation. J'attends qu'il revienne à l'agenda social. Il se trouve que, je crois, les 5 confédérations syndicales sont d'accord sur ce point. Nous voulons un agenda social de négociation interprofessionnelle nationale à reprendre dès la rentrée de septembre. Je pense et je crois avoir compris que l'UDP comme la CPME, les deux autres organisations patronales sont d'accord. Il ne manque plus qu'un acteur, je ne lui fais pas de procès d'intention, il vient d'être élu depuis 48 heures. Nous attendons de M. Roux de Bézieux en tant que président du MEDEF qu'il vienne très rapidement, dès la semaine prochaine, à la table des négociations avec les interlocuteurs sociaux pour bâtir un agenda social dès le mois de septembre.
Il est 8h33. Léa Salamé.
Vous parlez du pins de... comment il s'appelle ? Pierre Gattaz.
Pierre Gattaz.
Vous avez déjà oublié son nom.
Vous parlez du pins de Pierre Gattaz, le million d'emplois. Certes, on ne les a pas vus. En revanche, on apprend ce matin que les entreprises n'ont jamais autant embauché de cadres que cette année. 250 000 embauches prévues l'an prochain dans l'informatique, les télécoms ou le conseil. On est quasi au plein emploi pour les cadres. Est-ce que vous y voyez un signe positif de la politique d'Emmanuel Macron ?
D'Emmanuel Macron, non, parce que d'Emmanuel Macron ou de la politique de ce gouvernement, non, parce que vous aurez remarqué que c'est un tendanciel depuis maintenant une dizaine d'années où effectivement nous avons de la transformation petit à petit de postes, plutôt en cadre. Souvent, d'ailleurs, au détriment sur un plan quantitatif, parce que souvent un cadre remplace 2 à 3 postes d'employés ou d'ouvriers ou autres, ou de secrétariat ou de tâches administratives qui étaient menées anciennement. Mais ça, c'est pas de la responsabilité d'un gouvernement en particulier. Donc le fait qu'il y ait des embauches, qu'elles soient de cadres ou à tous les niveaux, est automatiquement une bonne nouvelle. Il faut espérer que ce soit évidemment des embauches en CDI et des embauches pérennes et des vrais emplois. Mais de ce point de vue-là, bien évidemment, ça ne peut être que positif dès lors qu'il y a des emplois et des embauches. Mais ce n'est pas l'effet direct d'une politique particulière de quelques gouvernements que ce soit.
En tout cas, c'est l'effet de la reprise de la croissance, ça c'est certain.
Je crois que c'est surtout une transformation. C'est-à-dire qu'il faudrait compléter cette étude en regardant les destructions d'emplois sur d'autres catégories, ou quantitativement, et dans quel secteur ces emplois de cadres sont transformés. Voilà.
Autre information du matin, le montant cumulé des 500 plus grandes fortunes de France a été multiplié par 3 en 10 ans, selon le classement 2018 du magazine Challenge. Il est encore dominé ce classement par Bernard Arnault. La richesse des riches a augmenté de 13% cette dernière année, donc année Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est forcément mal que les riches soient de plus en plus riches?
La question fondamentale, c'est la répartition de la richesse produite. On prône une loi contre les inégalités et notamment permettant la répartition de cette richesse produite. Lorsque je vois que sur 100 euros de profit des entreprises du CAC 40, dans lesquelles il y a beaucoup de ces plus riches, 67 euros vont aux dividendes et aux actionnaires, et donc y compris pour certains assez plus riches, et seulement 6 euros vont aux salariés et aux salaires, c'est-à-dire ceux qui ont produit cette richesse, ça pose un problème. Après, plus fondamentalement, la politique du chef de l'État et du gouvernement, certains disent, c'est une politique pour les riches. Bon, on pourrait le démontrer sur le plan fiscal. Plus 11 milliards pour ses plus riches, moins 24 milliards pour le reste. Mais la réalité, c'est que c'est une politique qui est menée, soi-disant, pour les fameux premiers de cordée, qui sont souvent ces plus riches-là.
Qui sont censés aider les derniers de cordée. En tout cas la philosophie du président de la République.
Sauf qu'au final, au bout du bout, c'est une politique qui est menée pour celles et ceux qui ont réussi parce qu'ils ont eu soit la chance, soit la capacité, soit les moyens de réussir seul sans les cadres collectifs. Donc on détruit les cadres collectifs des 90% pour pouvoir permettre finalement à ceux qui ont déjà réussi tout seuls, parce qu'ils ont eu cette chance-là ou ces moyens liés à un héritage ou autre, ou rentier ou je ne sais quoi, de réussir tout seul. Le problème, c'est que, comme dit chef de l'État, la théorie du ruissellement ne fonctionne pas, ça fait longtemps qu'on le dit.
Mais ça, mais il lui, le dit Emmanuel Macron.
Oui, ben d'accord, mais lui, il fait de l'évaporation. Donc il fait pas du ruissellement, il fait de l'évaporation. Sauf que les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Hein. Ouais. Ils s'envolent, hein. Ils sont
partis.
Vous
y croyez pas. Il est par définition.
J'y crois absolument pas.
Philosophiquement, ce pari que de dire que si on donne beaucoup aux
ça n'a jamais marché.
Aux riches. Mais aux actifs de manière là.
Mais alors les actifs, dans ces cas-là.
À la fin, tout le monde finira par en profiter. Mais parce que c'est vraiment la philosophie qui est à la base de la Macronie.
Allons expliquer ça aux 14%. Soi-disant ceux qui touchent un pognon de dingue, c'est-à-dire 26 milliards par an, c'est-à-dire 1% du PIB. Allons expliquer à ceux-là les chiffres que vous venez de donner pour les 0,1% les plus riches.
Donc vous dites c'est impossible,
France.
Ça ne marchera jamais.
Mais la vraie solidarité républicaine, la vraie valeur de solidarité républicaine, de fraternité ou d'égalité, c'est de permettre une redistribution et que celles et ceux qui ont eu cette chance ou ces moyens ou cette capacité de réussir seuls, ce qui ne fait pas d'eux des surhommes ou des surfemmes, redistribuent et redistribuent, à commencer par celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire malheureusement ces 14%-là. C'est ça qu'il faut absolument instiguer et instaurer par une loi, par exemple, contre les inégalités.
Allez, on passe au Standard d'Inter. Bonjour Nicolas, bienvenue.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, merci de prendre ma question. Je constate qu'il y a une très forte division syndicale et j'aimerais savoir si votre invité envisageait une réunification syndicale, par exemple avec la CGT et la FSU, dont les positions sont tout de même souvent proches de celles de FO.
Merci Nicolas. Pascal Pavageau vous répond.
Le pluralisme syndical, c'est un élément de la démocratie, comme il y a un pluralisme de partis politiques. C'est consubstantiel de notre démocratie et c'est important.
Maintenant, c'est très proche de la
hier
CGT.
Matin, non, c'est, enfin, attendez, on a la même souche historique sur un plan statutaire. Donc, ça, c'est le poids de l'histoire. Maintenant, vous pouvez constater, et je peux vous lister un certain nombre de points, où nous avons des divergences et à l'inverse, où nous avons des points de rapprochement avec d'autres centrales syndicales, que ce soit la CFDT, la CGC ou d'autres. Donc, de ce point de vue-là, le pluralisme syndical, c'est plutôt une force démocratique et ça permet aussi aux salariés, quelque part, d'avoir plusieurs crèmeries hein, et de pouvoir faire leur choix et de pouvoir choisir s'ils le souhaitent. Ça s'appelle la démocratie. Maintenant, pour répondre à Bruno, hier...
À Nicolas,
excusez-moi. Hier, on était les cinq secrétaires... Puisque ça a été... c'est paru dans la presse. Hier, on était les cinq secrétaires généraux des cinq confédérations, réunis ensemble pendant une heure et demie. Donc, je vous rassure, dans ce genre de cas, c'est plutôt très bon enfant, c'est plutôt très sympathique, c'est plutôt une sorte de logique intersyndicale où on fait le constat que finalement ce qui nous rassemble dans un contexte actuel est largement supérieur et plus fort que ce qui peut nous diviser en matière d'analyse.
Vous
et
donc, vous sentez plus proche de Philippe Martinez de la CGT ou de Laurent Berger de la CGT ?
Je me sens plus proche de Force Ouvrière, c'est mon mandat et de ce point de vue-là, bien évidemment. Non, moi à titre personnel, je me sens proche de personne en particulier, j'ai pas d'interlocuteur privilégié, y compris sur le monde syndical. Par contre, il est normal que à un moment donné, vous ayez des actions qui se fassent avec certaines organisations syndicales et pas d'autres, et sur un autre sujet, avec ces autres organisations syndicales et pas avec celles d'origine. Ça pose aucun problème, mais absolument aucun problème de ce point de vue-là.
Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci de prendre mon appel. J'ai pas de tendance FO, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure concernant les centrales nucléaires. Et je suis contente que ce soit dénoncé publiquement. Mon mari a travaillé pendant 35 ans sur la centrale nucléaire du Tricastin, au départ comme responsable métallurgiste, et ensuite il a fait une formation interne comme ingénieur sécurité des installations. Et depuis les années 2000, il est aujourd'hui à la retraite, je l'entends dire que c'est une catastrophe de passer sur la sous-traitance pour faire l'entretien des centrales. Les savoir-faire, comme vous le disiez tout à l'heure, se sont perdus. Et la sécurité n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être. Les formations qui sont données à ces gens-là, ça dure à peu près 4 semaines. Aussi qualitative soit-elle, je pense qu'il est difficile en 4 semaines de tout comprendre d'un site nucléaire. Voilà.
Merci.
Donc, c'est juste un témoignage, mais franchement, c'est un gros débat qu'il faudrait soulever.
Merci voilà. Isabelle pour ce témoignage que je transmets à Pascal Pavageau.
C'est pas le seul secteur qui est concerné par ce problème de montée en puissance de la sous-traitance. Souvent, vous l'avez rappelé, pour faire des économies de queue de cerise, sauf que le jour où il y a un incident ou un problème, ben on le paye tous de façon très forte. Le problème, c'est qu'en plus, les 20% qui restent aujourd'hui de la filière sont en plus des gens qui vont bientôt partir à la retraite. Donc, on a un problème de transmission de savoir-faire parce qu'on n'a plus de capacité de faire savoir. Voilà, c'est ça le problème de fond. Et donc, il ne faudrait pas que demain, 100% des acteurs du nucléaire soient des gens d'entreprises privées extérieures à la filière nucléaire, non formés, notamment en matière de sécurité.
Allez, rapidement, Léa Salamé.
Pascal Pavageau, vous êtes vent debout contre une modification éventuelle de la Constitution qui entérinerait un changement sémantique. On ne parlerait plus des lois de financement de la sécurité sociale, mais des lois de financement de la protection sociale. Pourquoi ça vous met en colère?
D'abord, c'est l'étatisation de la sécurité sociale, c'est la fin des éléments de cotisation et c'est une gestion purement budgétaire et comptable demain de la Sécu. Mais plus fondamentalement, là quand même, à un moment donné, il faut qu'on arrête un peu, quoi. Parce que là, depuis un pays en ruine, après-guerre, est capable d'inventer le système le plus extraordinaire du monde sur le plan social, sur le plan de la solidarité, un outil d'une modernité exceptionnelle que le monde entier nous envie. Ça s'appelle la sécurité sociale collective. Et 70 ans après, alors que la France est riche, alors que nous sommes la 5e puissance économique mondiale, uniquement selon une logique d'une vision idéologique de casse du collectif et d'individualisation, on va constitutionnaliser la mort de la Sécu, ça, c'est pas possible. Je le dis très clairement, et je crois que les autres organisations syndicales l'expriment de la même manière. Ça s'arrête tout de suite. Parce que là, il y a des choses sur lesquelles on ne plaisante pas. Donc là-dessus, que le chef de l'État vienne nous expliquer avec le gouvernement qu'il souhaite que nous posions les bases, par exemple, d'une logique de tripartisme, parce que l'État est malheureusement de plus en plus présent aujourd'hui dans la gestion de la sécurité sociale ou d'autres outils liés à la cotisation. Dont acte. Mais que, en catimini, sans concertation, on vienne constitutionnaliser la mort de la Sécu, ça va pas le faire, hein.
Pascal Pavageau, merci, secrétaire général de Force Ouvrière. Merci d'avoir été dans le 7-9 d'Inter ce matin.